Je suis un non-violent. Quand j'entends parler de revolver, je sors ma culture. Le meilleur humour est un détournement, un pas de côté, et Francis Blanche, en renversant la célèbre phrase de l'écrivain nazi Hans Jost, le savait mieux que quiconque. Dans l'artichaut, la culture est armée. De ses invités bigarrés, de ses parcours artistiques déclinés, de ses joutes joyeuses improvisées. L'artichaut a 11 ans, déroule sa 12e saison, et si tu le crois pas, tarte ta gueule à la pause musicale. Au menu de ce 174e épisode, comme le temps passe. Une causerie avec. Alors, comme ils ont changé, alors ils m'ont changé tous les noms là pendant deux jours. Je vais quand même essayer d'avoir les bons noms. Alma et Daniello. Super. Vous êtes apprenti fantastique dans l'artichaut. Et oui, sera. Bah alors maintenant, c'est parce que tout a été modifié. Là. Elle sera, ou il sera, mes prochains fantastiques. Celles et ceux de la promo 21-24 avaient pour prénom Emma, Malik, Adam et Noam. C'était elle. Et c'était eux qui étraînaient l'école supérieure du Centre National de Danse Contemporaine, CNDC, d'Angers, version Noé Soulier. L'artichaut souhaite un destin similaire en plaisir, apprentissage, création, à Alma Douki.
Oui, c'est ça.
Et là, il va falloir me dire pour la prononciation, Daniello Belcher.
Belcher. C'est ça, Belcher.
Belcher. Ouais, Belcher. Ouais. En attendant, elle, il... vont se présenter à l'auditrice, à l'auditeur de Radio Campus Angers. Bien, alors, bienvenue à Alma et Daniello.
Merci beaucoup. Je peux commencer.
Je suis Alma, j'ai 21 ans. Je viens de la Tunisie.
Ah, tu anticipes mes premières questions. Parce qu'il y a des questions rituelles dans l'artichaut. Depuis 12 ans, il y a des questions rituelles. Et c'est, où es-tu née, Alma?
En Tunisie, au centre. La capitale.
Voilà, non, c'est très bien, c'est très bien. Daniello.
Moi, je suis né en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince, dans la capitale.
Capitale, ouais. Et il y a une deuxième question rituelle dans l'artichaut. Est-ce que vous avez un souvenir étant très petit, pré-ado, enfant, on va dire, d'un premier choc esthétique, culturel, quel qu'il soit, c'est-à-dire une musique, une peinture, du théâtre, c'est plus rare, ça dépend où on vit, et dans quel milieu on a grandi. Mais est-ce qu'il y a comme ça un premier choc artistique que vous gardez, puisque vous allez en parler, et qui vous poursuit? Qui commence? Allez, il faut se lancer.
Moi, un premier choc culturel qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était le carnaval. Le carnaval, c'est un truc en Haïti qui est très très connu. Où pendant le mois de janvier, février et même mars, je crois. Et du coup, il y a les gens qui se déguisent, qui font des masques et tout. Et du coup, quand j'étais petit, j'étais trop content aussi d'aller voir ça. Et du coup, c'est un truc qui m'a marqué. Voilà.
Et qu'est-ce qui reste de se souvenir en fait de cette image, c'est les danses, les costumes, les chants, le monde
ou... Ouais, tout ça. En fait, non seulement il y a les déguisements, les habits et tout, qu'ils portent et tout, et aussi, ce qui m'a marqué aussi, c'est la musique aussi, qui accompagne aussi les performeurs. Et ouais, je trouve que c'est la musique qui m'a marqué le plus, quoi.
Et c'était quel type de musique?
En fait, c'est musique. En fait, avant cette période-là, il y a on appelle les bandes à pied, où il y a des musiciens qui jouent des percussions, tout ça. Et ils composent la musique. Par exemple, on peut donner un thème pour le carnaval, pour toute la ville. Par exemple, la ville de Jarmel, là où j'habite. Et là, ils disent le thème, c'est exactement. Par exemple, c'est ville Jarmel en danse. On par exemple un thème comme ça, où il y a les bandes, différentes bandes à pied qui essaye de faire un son, une musique associée à ce thème-là pour parler de ce qui se passe et tout, par exemple, par rapport au thème. Et du coup, c'est ce qui est bien, où il y a chaque bande à pied, ils ont fait leur son. Et ce qui était bien, c'est qu'il y a des gens qui sont déguisés qui passent, mais du coup, c'est pas forcément leur bande à pied de leur quartier qui passe pour qu'ils puissent danser dessus. Et du coup, ça, c'était bien aussi de voir le partage, même si tu connais pas la musique, mais tu passes dessus, les performances, ça, c'était chouette.
Mais bande à pied, c'est en français, c'est bande à pied ou bande comme.
Comment on dit ça en français? Bande à pied, c'est en fait. Je sais pas comment dire ça.
Non, parce que moi, j'entends bande à pied, c'est une bande qui est à pied.
À pied, alors, quoi, où ils ont allé au centre-ville. Oh, il y a par exemple, il y a un parcours à faire. Par exemple, ça peut commencer.
Non, mais le mot en lui-même, c'est bande à pied.
Bande à pied, oui.
Ah ouais.
Donc, bande à pied.
Et ça correspond peut-être au Batucada. C'est un peu ce style-là ou
C'est comme
brésilien. Enfin,
non, c'est comme une manifestation. Quelqu'un, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Mais du coup, c'est juste qu'il y a de la musique et tout. On partage, on danse et tout. Ouais. Il y a des musiciens qui jouent exactement les musiques traditionnelles haïtiennes, même parfois des musiques d'autres pays et tout.
Alors, elle a eu le temps de réfléchir à son Alma. C'est parti.
Moi, c'était une battle de breakdance qui s'appelait Break to Be Free. Mais c'est moi, je venais du milieu de la danse classique et tout. Du coup, je savais pas qu'il y avait des styles comme les breaks, le hip-hop et tout. Du coup, pour moi, c'était la première fois et c'était un peu comment dire, c'était un peu pas choquant, mais oh, j'ai eu un lag. C'était un peu choquant, ça veut dire que je savais pas qu'il y avait ce milieu là dans la danse, et c'était la première fois. Voilà.
C'est une battle dans la rue, dans une salle?
Non, c'était dans un cité de la culture en Tunisie.
D'accord.
Et voilà.
Et même question, qu'est-ce qui est, puisque tu parles de ce souvenir, il y a forcément des images. Et c'est quoi, c'est le mouvement des corps qui te reste, ou la musique, ou le fait que ce soit une danse assez libre, enfin libérée, on va dire?
C'est surtout le fait d'avoir des cyphers, c'est des cercles. Et un par un, chacun fait un passage. Et moi, je ne savais pas que ça existait.
D'accord.
Et surtout aussi la forme du corps, et c'était nouveau pour moi. Voilà.
Et il y a une petite dernière question rituelle dans cette émission. Il y a un vieux monsieur emblématique de la radio, et il s'appelait Jacques Chancel, qui avait une émission, et qui avait demandé je crois que c'est un syndicaliste, il faudrait que je vérifie un jour, parce que c'est ma mémoire qui flanche un peu, mais communiste, enfin, quelqu'un de très à gauche, libéral, et Dieu dans tout ça. Et moi, ma question un tout petit peu moins, on va dire, abyssale que ça, et Dieu dans tout ça, et l'école dans tout ça, comment ça se passe l'école, pour vous deux? Est-ce que vous êtes plutôt des élèves au fond de la classe près du radiateur, des camps? Quelles sont les matières préférées? Parlez-moi de tout ça.
Vous voyez l'école en ce moment, CNDC, conseil?
Non, l'école quand vous êtes petit.
Quand t'es petit.
Ouais.
Je sais comment quand j'étais petit.
Ah. C'est, à votre âge, c'est dur de refaire sa vie, mais en même temps, c'est assez récent par rapport à moi. Vous devez avoir des souvenirs quand même.
Oh, j'en ai des souvenirs, j'ai des souvenirs. En fait, moi, l'école, j'ai terminé mes études en France. Parce que Haïti, j'ai laissé Haïti parce que j'avais une bourse d'études pour arriver en France. Et du coup, je voulais passer mon bac en France. Et du coup, j'ai terminé mes études en France. Mais l'école à Haïti, j'étais, je vais pas me vanter, j'étais très doucement attentif, ou comme ça. C'est ma personnalité.
Il y avait des matières préférées?
Ah oui, ouais. Moi, j'aimais bien mathématiques. Après, j'aimais bien l'espagnol, la langue. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais j'étais pas turbulent, ça va.
Non, je pose cette question parce que il y a une question en filigrane, c'est est-ce qu'il y a assez jeune, encore une fois, à la préadolescence, des envies de métier, des envies de faire quelque chose plus tard adulte?
Ah, quand j'étais petit, en fait, tout petit. Moi, j'avais la danse, ça c'est sûr, parce qu'il y a ma famille aussi qui font la danse. Et après, il y avait le médecin à côté, que quand j'étais petit, je disais oui, il faut que j'aille faire médecin et tout. Mais c'était plus la danse. Si c'était pas la danse, c'était la médecine. Et du coup, c'était ça.
Non, mais si je pose cette question, c'est que je trouve qu'on on garde toujours un tout petit peu de nos rêves d'enfant dans ce qu'on est plus tard. Alors, vous êtes encore des enfants, mais en général, cette question donne des choses après, parce que médecin, il y a des gens qui veulent être, je sais pas moi, professeur ou pompier ou ce que vous voulez, boucher. Il y a aucun jugement sur l'idée même de métier, mais médecin, il y a cette notion de prendre soin du care quand même aussi. Parce que on va pouvoir, enfin ça je vais le faire, mais tu vas peut-être me contredire, mais il y a cette notion d'apporter quelque chose de bien aux gens, enfin ouais. Et je trouve
mais en fait moi petit, tu vois juste médecin par exemple, le métier, qu'est-ce qu'ils font et tout, ce que t'as envie de donner et tout, mais c'est pas un rêve d'enfant où j'ai dit ah j'ai envie de, parce qu'il y a plusieurs branches et du coup tu sais pas dans quelle branche, t'as juste que tu entends médecin et tout, tu dis ah ok, j'aime faire médecin et tout, mais c'était pas un truc que t'avais exploré quand j'étais petit. Mais après quand je commence à grandir et tout, je sais, je voulais plus aller au milieu de la danse quoi. J'ai découvert et du coup c'était ça mon métier que je voulais faire plus tard comme métier. Du coup c'était plus focalisé, j'étais toujours à l'école, mais après dans mon école il y avait des cours de danse, du coup j'étais plus de ce côté là
Alma.
Moi, quand j'étais petite, j'étais comme maintenant, timide.
Mais c'est pour ça que c'est merveilleux de venir au micro pour parler de ça. Mais oui, non, mais je vous remercie parce que c'est leur première radio. Il faut que je dise à l'auditeur et à l'auditrice de Radio Campus Angers, c'est leur première radio. Je suis très heureux qu'ils ils me diront eux après s'ils étaient heureux de faire cette première radio avec moi. Mais allons-y, Alma. Quel type d'élève?
Quel type d'élève? J'étais attentive, quand même. Oui, j'étais le type d'élève qui est là, qui est attentif, mais qui ne parle pas, en fait. Voilà. Et je le suis toujours. Et mes matières préférées, la gestion et l'italien.
La gestion?
Oui.
Waouh.
Oui.
Ah ouais, c'est une réponse assez rare, la gestion, je dirais quoi en fait, la matière même de la gestion.
Oui.
Ah ouais.
Oui, j'ai fait un bac éco-gestion, du coup...
Avec une idée derrière de...
Ah non, pas du tout. Moi je voulais faire, et déjà je l'ai fait, je voulais faire de l'architecture d'intérieur, du coup... En Tunisie j'ai suivi... 2 ans d'architecture d'intérieur après mon bac. Mais je n'ai pas terminé la 3e pour venir au CNTC.
D'accord.
Oui.
Et pourquoi l'architecture, enfin,
J'aimais ça depuis que j'étais petite. Et en plus, ma sœur, elle étudie aussi de l'architecture. Du coup, elle m'a influencée.
Mais moi, je trouve que moi, j'ai fait littérature parce que je suis encore là-dedans, en fait, parce que ça me faisait sortir comme disait Baudelaire, Anywhere but out of the world. Et l'architecture, ça a du sens, quand même. C'est quoi? C'est d'agencer quelque chose dans la vie? C'est de mettre du décor autour du monde? Parce que c'est quand même quelque chose de particulier, l'architecture. De penser le cadre des gens, l'environnement des gens.
Oui. En fait, la première année, j'ai fait de l'architecture d'intérieur, mais la 2e année, je suis allée en scénographie parce que je voulais faire le lien avec la danse. C'est pour ça.
Non, mais mes questions ne sont pas bêtes, hein, vous savez. Il y a une logique.
Oui,
hein, mec, ça. Et on va arriver évidemment à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire deux jeunes danseurs de l'école supérieure de danse du CNDC, du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Elle arrive quand la danse dans votre vie?
Moi, dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé avec la danse classique au Centre culturel russe.
Ah oui?
En Tunisie, oui.
Ah, l'école russe?
Oui.
Ah oui, donc oui. En classique, c'est... Oui.
Oui. Ouais. Mais après, j'ai dû couper à l'âge de 11 ans. Et j'ai intégré une compagnie, mais de contemporains, à l'âge de 16 ans.
Si c'est pas trop intime, mais à 11 ans, la coupure, elle est physique, elle est morale, elle est pourquoi
Non, c'est juste mes parents parce que c'était trop tard la nuit.
Ah, d'accord.
Du coup, Mes parents, pour eux, la priorité, c'est les études. C'est pour ça.
Oui, c'est pas un métier d'être doré, d'être danseur. Non.
Mais maintenant, ça va, c'est bon. Ils comprennent, c'est bon.
Oui, bah oui.
Oui.
Moi, j'ai commencé à 7 ans. Et du coup, moi, je faisais... en fait, mon prof de danse, c'était un prof de base classique. Mais du coup, dans son école de danse, je faisais du classique, du contemporain, du jazz. Et aussi de la danse traditionnelle haïtienne, qui est le folklore, danse traditionnelle. Après, je fais aussi un peu d'hip-hop aussi. Après, je fais un peu de salsa. Je faisais aussi un peu d'acrobatie aussi. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à maintenant, je suis dansé. Ouais. Il n'y avait pas eu de coupure comme Alma. Voilà.
Il y a un bain familial.
Oui, exactement. Il y a ma famille qui dansait, mais danse traditionnelle. Et après, il y avait ma soeur aussi, ma soeur et mon frère qui étaient dans la même école que moi. Et après, à un moment donné, il y a ma soeur qui a arrêté, mon frère qui a arrêté, et moi qui a continué. Donc.
Alors, la question que je vais te poser, je l'ai posée à Noé Soulier, qui est venu à ce micro pour parler de sa vie. Donc, je rappelle, Noé Soulier, c'est leur directeur. C'est le directeur du CNDC, donc... Moi, de ma génération, alors qui n'est vraiment pas la vôtre, évidemment, c'était assez étrange que des garçons choisissent la danse. Il y avait beaucoup de préjugés, et moi, c'était, voilà, des petits garçons. Alors, j'étais pas en ville, dans une ville comme Angers, j'étais un peu en campagne, mais le foot, le basket, la danse était tout de suite un peu connotée. Ouais. Je trouve la question d'autant plus pertinente que c'est Haïti. Et comment c'est perçu, en fait, qu'un garçon veuille faire de la danse sa vie.
En fait, c'est une belle question. En fait, quand t'es petit, du coup, tu dis, bon, tu veux danser et tout. Ça, du coup, tu comprends pas tout, qu'est-ce qu'il y a aux alentours et tout. Par exemple, les gens qui font de la danse Haïti vont te dire, oh oui, t'es gay ou voilà.
Oui, non, mais non, on y vient. Enfin, je sais pas.
Mais du coup, le truc, c'est que quand t'es petit, tu penses pas du tout à ça parce que voilà, tu danses et tout, tu vois tes amis et tout qui dansent et tout, et ta famille aussi qui danse, et du coup, t'as envie de danser. Mais Haïti, je trouve, le truc, c'est que si tu fais danse contemporaine, danse jazz, danse hip-hop, ça va, t'es un bon danseur, il n'y a pas de préjugés. Mais dès que tu fais la danse classique, c'est ça. En fait, c'est ça la question et tout, et je crois, ouvert d'esprit dans un sens que la danse, si tu fais la danse classique, ça ne veut pas dire que t'es gay ou tu seras gay, quoi, c'est pas ça. C'est juste que t'as envie de faire, t'as la passion pour ça, et tu fais ça, tu peux faire d'autres métiers, mais t'es gay, quoi. C'est pas la danse classique qui va te faire que devenir ou gay.
Non, mais au final, on s'en moque, mais Noé m'avait quand même répondu. Pour moi, c'était une question de ma génération, c'est-à-dire, voilà, le vieux monde, qui en ce moment est en train de s'écrouler, et tant mieux, sur beaucoup de pratiques. Et Noé m'avait répondu oui, de sa génération aussi, il y avait ces questionnements par rapport à être danseur pour un garçon, parce que lui il était à l'Opéra de Paris, quand même. Il est parti tout de suite, mais... Et il y a ce côté très... Oui, des préjugés. Et je me demandais en Haïti, en fait. C'est la même...
Oui, c'est ça.
Pas plus, pas moins.
C'est pareil, quoi. Mais par exemple, tu danses hip-hop et tout, ça va. Tu t'es danseur hip-hop, tu fais des acrobaties, tu fais... Voilà, ça va. Mais dès que tu fais la danse classique... Déjà, ils savent pas ce que c'est la danse classique et tout. Parce que dès que tu fais la danse classique, c'est que... Dès que tu fais la danse classique, ils voient des croulants, des trucs près du corps et tout, et voilà. Et du coup, pour eux, non, les garçons, ils peuvent pas mettre ça et tout, pas la taille et tout. En fait, quand t'es entouré des amis et tout, par exemple, tu fais la danse classique, tu comprenais pas, et du coup, après, tu vois les amis qui écoutent d'autres gens de l'extérieur et tout, tu dis non, tu fais ça et tout, et du coup, c'est comme ça, tu vois, tes amis, ils vont commencer à parce que j'avais beaucoup d'amis qui font de la danse aussi, comme moi, et du coup, c'est ça qui m'a poussé aussi, et ma famille aussi, pour faire la danse et tout, mais quand ils sont pas ouverts d'esprit, par exemple, il y a pas leur famille qui disent, ce qu'ils te disent, c'est pas du tout ça. Comment tu peux continuer dans cette ligne-là que tu veux? Et du coup, il y en a qui continuent pas, quoi. Et du coup, tu te dis, oh là, qu'est-ce que tu vas faire et tout, voilà. Mais du coup, si c'est ta passion et tout, tu le fais, quoi.
Et Alma, donc, tu disais que, oui, ça peut pas être un métier. Comment t'as géré ce rapport-là, au fait de dire, j'ai envie de faire de la danse par rapport à tes parents, par rapport à ce contexte-là?
Ah, en fait, j'ai... Parfois, je partais au cours de danse, Mais sans dire à mes parents. Parfois, oui, je faisais ça.
Mais ils n'écoutent pas, là, c'est pas grave.
Oui, tu peux, voilà.
Voilà. Tu peux tout... Ou peut-être, je ne sais pas. C'est...
Mais après, quand ils sont venus voir des spectacles où je dansais et tout, ils ont dit ok, ouais. Vas-y. Et lance-toi.
C'est quoi la place de la. Moi, c'est pour ça que je trouve ça passionnant de vous avoir au micro, parce que. Et je trouve ça passionnant le CNDC, pour ça, pour toutes les nationalités, tous les parcours. C'est quoi la place de la danse c'est un pays que je ne connais pas du tout, je ne sais pas vraiment. C'est quoi la place de cet art en Tunisie?
Même les spectacles qu'on fait, qu'on crée et tout, il y a du monde qui vient en fait. Il y a du monde qui vient voir et qui sont intéressés par la culture. Mais ça a une place importante quand même. Ouais. D'accord.
Et tu parles de danse traditionnelle, de danse contemporaine, parce que c'est ça en fait. C'est intéressant d'avoir ce déclic danse contemporaine, parce que c'est quelque chose de très français ou américain. Ou,
Une partie des gens ils connaissent, mais une autre partie aussi, il y a qui ne connaissent pas en fait. Mmh. Oui. Quand tu leur dis que tu fais de la danse contemporaine, ils te disent c'est quoi?
Oui.
Oui. Ouais.
En France aussi d'ailleurs, certains.
Oui. Voilà.
Même si c'est un pays assez.
Mais sinon, la plupart du gens connaissent. Quand même. Oui.
Et est-ce que vous avez le souvenir un peu comme votre premier choc esthétique dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un déclic où vous vous dites, parce qu'on va arriver gentiment vers le CNDC évidemment, est-ce qu'il y a un déclic où vous vous dites je m'engage, je vais engager une formation pour éventuellement être danseur professionnel. Est-ce que vous avez ou c'est un parcours, vous voyez, un peu diffus, ou c'est il y a un moment où vous dites ça y est, je me lance. Alma.
Pour moi, quand j'ai intégré la compagnie, je savais que la danse classique, du coup, je savais pas le contemporain. Mais quand j'ai intégré la compagnie, j'ai fait des cours de contemporain et c'est là que tout de suite j'ai su que je voulais faire ça en fait. J'aimais trop les informations que tu peux avoir depuis des idées toutes simples. Voilà.
Moi, quand j'étais la danse, j'ai décidé qu'il sera mon petit, c'était un peu plus tard quand même. Parce que j'ai commencé, c'est vrai, avec ma famille et tout. Et après, il y a mon prof de danse qui a ouvert son école de danse aussi en Haïti. Et du coup, parce qu'avant, j'étais au collège où mon prof, il venait dans cette collège-là. Il a fait une audition pour toute la classe. Et du coup, pendant ce temps-là, moi, j'étais pas là. Et du coup, bon, si t'es pas là, et du coup, directement, t'es pas dans la classe. Et du coup, le lendemain, je crois que c'était le lendemain de le cours commence la danse. Et du coup, je suis arrivé en vêtements de danse et tout. Et après, je me souviens, il me disait, toi, t'étais pas là, toi, t'étais pas dans l'audition. J'ai dit, oh, oui, j'étais là. J'ai dit, non, je suis pas sûr. J'ai dit, oui, j'étais là. Bon, il faut mentir un peu. Bon. Et après, il a demandé à mes amis de Danilo, il était là hier. Et les autres qui me disaient, oui, il était là et tout. Et du coup, pendant ce temps-là, et du coup, j'ai intégré la classe. Et après, pendant pas mal de 3 ans ou 4 ans, je crois, je suis dans au collège, je fais la danse. Après mes cours à la mathématiques, voilà. Et après, lui, il a décidé d'ouvrir son école de danse, toujours dans la même ville. Et du coup, tous les gens qui étaient sélectionnés dans ce collège-là, du coup, on va là-bas, dans cette école-là. On ne fait plus la danse dans ce collège-là. Du coup, on va là-bas. Et du coup, on commence à danser. Moi, j'ai dansé parce qu'il y avait mes potes et tout. Et voilà. C'était pas du tout. C'était pas encore clair dans ma tête. Du coup, je fais ça. Et le déclic, ça a commencé parce qu'à un moment donné, il y avait mon prof de danse qui disait on va faire une compétition et tout. Et la personne qui gagne, il va essayer de trouver un moyen pour que cette personne-là part à l'étranger pour aller continuer la danse. Et du coup, c'est là que ce déclic-là, ça venait parce que. En fait, il faut dire aussi, il y avait mes potes qui étaient, voilà, qui dansaient bien, bien plus que, bien, bien que moi. Enfin, voilà, il faut dire ça. Et du coup, tout le monde pensait, il y avait un ami à moi qui s'appelait Davison, qui était très, très fort, ça c'est sûr. Mais du coup, tout le monde pensait que c'était lui qui allait gagner, parce que, voilà, quand tu vois comment il bouge et tout, et toi, voilà, t'es toujours en arrière-plan et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, c'est le moment et tout, de voir ce que je peux faire, quoi. Et du coup, je me souviens, j'avais composé une chorégraphie sur la musique. Personnalisme, en tout cas, personnalisme, voilà. Et du coup, il y avait le jury et tout. Le moment où on a fait l'audition, on a passé, il y avait le jury qui notait et tout. Le lendemain, et du coup, ils m'ont dit, et Danilo, t'as remporté, c'est toi qui as terminé en première position. Je dis, ah d'accord. Et du coup, c'est là que c'est déclaré. Et du coup, j'ai dit, bon, voilà, si tout le monde pensait que la personne qui allait gagner, c'est pas lui qui a gagné, du coup, c'est moi. Et du coup, j'ai dit, bon, voilà, c'est le moment de prendre ça au sérieux.
Ouais,
voilà.
C'est légitime. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et on va quand même évoquer la notion de, si vous voulez bien, un peu d'exil, parce que ça implique un exil quand même, ouais. Ce qui n'est pas rien, de quitter ses proches, sa famille, de changer de pays. Et ma question avant la pause musicale, alors je vais quand même rappeler à l'auditeur qui allume son poste radio, qui est dans sa voiture ou chez lui, qui se dit tiens, je vais écouter Radio Campus Angers, il a bien raison, que nous recevons Alma Duki et Danilo Belcher.
Exactement.
Voilà, deux étudiants en première année de l'école supérieure du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, sous la direction de Noé Soulier et de Marion Colletter. On la salue.
Oui,
comme, oui, oui, oui quand même. Et on parle avec de leur parcours et de leur arrivée sur Angers. Et avant de passer le morceau musical que vous avez choisi, vous êtes mis d'accord,
d'accord.
Ouais. Ouais. Même avec les absentes qui devaient venir, tout ça, c'était un choix. Non, c'était vous deux là.
Ah, c'était vous deux. Ouais. Ouais. Après, on a su qu'on n'est que deux qui va faire l'émission et du coup, on dit on choisit.
Voilà. Voilà. Bah, on va peut-être. Merci. Je regarde Étienne parce que je remercie d'ailleurs de le précieux Étienne d'assurer la technique. On va l'annoncer. Peut-être des fois on le désannonce le morceau. Là, pourquoi ce choix? Que vous, alors, La Mossa, c'est ça?
Oui.
La Mossa. Alors là, avec mon accent espagnol de vache italienne qui parle hindi et turc et danois, on y va. Canzolero Courtiel. Non, c'est ça ou pas? Alors, pourquoi ce choix, Alma?
Bah parce qu'on s'échauffe déjà sur cette musique.
C'est concret,
on met ça au CNDC, c'est pour ça.
Super.
C'est une chanson commune pour nous tous.
D'accord. Ouais. Daniel,
en fait, on avait une playlist et du coup, on dit bon, on prend celui-là. Ça marche bien et du coup, on dit bon, on envoie celle-là et du coup, ouais, on aime bien cette musique.
C'est parti. Bien sur Radio Campus Angers dans l'Artichaut qui reçoit ce soir Alma Duki et Danilo Belcher, deux étudiants en première année de l'école supérieure du CNDC Angers. Et avant de leur redonner la parole, on va écouter le précieux Étienne qui nous parle de ce morceau.
Non, je connais pas spécifiquement, mais on reconnaît bien le style de la tarentelle, qui est une musique traditionnelle du sud de l'Italie, et avec le tambourin, c'est une musique de trance, vraiment et puis la mossa, donc fait partie de ces jeunes qui reprennent les musiques traditionnelles parce que ça nous fait du bien de se réaxer à la tradition quand elle est belle.
Super, merci Étienne. Donc le morceau c'était Canzonero Cotiel. Maquet, je sais pas. La Mossa. Donc on va redonner la parole juste avant votre choix musical. Je précise que c'était votre choix musical, donc Alma et Danilo. On parle un peu d'exil, puisque vous avez dans l'artichaut, l'auditrice, ont un parfum de Tunisie et de Haïti. Et je trouve que quand vous décidez à... Alors, avant le CNDC, pour toi, Danilo, je pense.
Ouais.
Oui. Et aussi pour toi, Alma, avant le CNDC.
Oui.
Oui. Comment ça se passe et comment vous le vivez? Parce que c'est, moi, je ne connais pas ça. Je suis né il n'y a pas loin et je suis resté là. Non, mais l'exil, c'est toujours un... Il y a un magnifique roman de Camus qui s'appelle L'exil et le royaume. Comment vous le traversez, ça? Cette distance, cet exil, en fait. Alma, Danilo, allez-y.
Ok, bon, je commence, Alma, super.
Danilo.
En fait, au début, c'était un moment hyper fort dans le sens que quand t'es jeune, j'avais 18 ans, et du coup, de quitter ta famille dans le sens que t'as envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et du coup, t'as la chance d'avoir une bourse. Bon, il faut souligner ça aussi. J'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études dans une école de danse à Montpellier, Epse Danse, chez Anne-Marie Pourras. Et du coup, quand mon prof de danse, il m'a dit, Danilo, on a trouvé une bourse d'études pour toi, on va régler les papiers, parce que les papiers à Haïti, c'est très très compliqué pour les avoir et tout. Du coup, on va faire le nécessaire pour qu'on puisse avoir les papiers dans les meilleurs délais. Comme ça, on peut aller, parce que l'école, c'était déjà ouvert en septembre, je crois. Et du coup, moi, je suis arrivé en France en décembre 2020. Le 20 décembre, plus précisément. Et du coup, c'était un moment d'enthousiasme, quoi, de découvrir et tout, un nouvel pays, une nouvelle culture et tout. La langue, parce que la langue, Haïti, on a deux langues officielles, le créole haïtien et le français. Mais nous, on comprend plus le créole que le français. On parle créole, on parle français quand on est à l'école et tout. Par exemple, nos livres et tout sont en français, tandis que les explications des profs, c'est en créole, quoi. Et du coup, il faut comprendre dessus comment tu peux essayer de comprendre et tout un truc qui est en français et comment le prof te dit en créole, comment tu peux l'expliquer et tout. Voilà. Quand j'ai eu cette bourse d'études-là, et du coup, quand je suis arrivé en France, c'était très, 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 très dur pour moi de m'adapter parce que déjà, je connais personne. Je suis arrivé dans un pays où je connais personne et tout. Et il y a toute ma famille sont restées à Haïti. Et du coup, c'était que par visio, quoi, par WhatsApp et tout, que je peux communiquer avec ma famille. Je dis ça aussi. Heureusement, il y a le téléphone, sinon, ce serait très, très plus compliqué que ça. Et après un an passé, du coup, je commence à m'habituer.
Déjà, mais c'était en plein Covid, en fait, t'arrives
en plein Covid. Ouais.
Non, bah, ça rajoute quand même un peu.
Ouais, en plein confinement. Il y avait le confinement.
Ouais, ça rajoute au côté bizarre de la. Déjà ouais. S'exiler et en plus arriver dans un contexte.
Exactement.
Et dans un pays raciste. Donc c'est bien, non? La totale, quoi.
Mais écoutez.
Dans un pays raciste en plein Covid. Non, mais c'est bien. Non, bonne pioche, bien l'idée.
Écoute, on suis arrivé. Et après, j'avais un bon cadre, quoi. Là où je descendais. En fait, avant, j'habitais à Sérignan. C'était près de Béziers et tout. Et mon école d'art, c'était à Montpellier. Et du coup, chaque matin, il faut que je prenne le train pour aller à l'école de danse et tout, voilà. Mais à 2 ans, 3 ans, du coup, je commence à m'habituer aussi parce que il y a le climat et tout. Parce que
oui.
Haïti, c'est un pays tout tropical et du coup, quand tu arrives en France et tout, en plein décembre, plein d'hiver et tout, il fait très très froid et tout. Et du coup, c'était très compliqué. Et après, il faut t'habituer aussi, par exemple, les plats aussi ici, que tu connais pas du tout. Ou sinon, tu connais, mais tu manges pas parce que t'es pas habitué à ça. Et du coup, il faut que tu commences à t'habituer, t'acclimater et tout. Faire aussi des nouvelles amies aussi, parce que là, tes amis de Haïti sont plus là. Et du coup, c'était tout un changement et tout, que ce soit émotionnel ou... Voilà, c'était... Mais là, ça fait 4 ans que je suis en France. Mes parents me manquent, ça, c'est sûr. Mais du coup, voilà.
Alba.
Je crois que je me suis trompée. Moi, je suis là depuis août. C'est maintenant que je suis venue en France. Et bah, c'est un changement. C'est sûr. mais maintenant, je commence à m'habituer. Maintenant, au début, c'était un peu compliqué. C'est sûr. Mais après, je me suis habituée, de nouveaux amis, un nouveau environnement. Bien sûr que ça me manque d'aller en Tunisie. Mais ça va. Et en plus, ma mère, elle m'envoie des colis et tout, avec de la nourriture.
Oui, oui, la vraie
du
nourriture.
Du coup, ça
ouais.
va.
Bon, en France, il y a pire hein, qu'en France. Hein. La nourriture, mais enfin bon. Alma, tu vas poursuivre. Est-ce que tu connaissais le CNDC?
Oui.
Et pourquoi avoir postulé, en fait? Pourquoi avoir candidaté à cette école?
Je connaissais le CNDC parce qu'il y avait des... Il y avait des danseurs dans ma compagnie. Ils ont fait le CNDC. Du coup, je connaissais un peu. Et c'est ma chorégraphe qui m'a un peu poussée pour aller faire l'audition. Du coup, j'ai accepté, je l'ai fait, et voilà.
Non, parce que ça va leur faire plaisir, mais moi, ça fait... Enfin, vous n'étiez même pas né que je suivais déjà le CNDC, mais... Oui. Et c'est réputé, ouais. Parce que je demande ça à tous les étudiants, à chaque fois que je les rencontre. Parce que nous, on est dedans. Moi, je suis dedans. C'est ma ville, c'est mon centre, je l'ai toujours connu. C'est vraiment réputé, ouais.
Oui, le CNDC, c'est réputé quand même.
Et Danielo, alors, comment t'arrives à Angers, au CNDC? C'est une école que tu connaissais?
Je l'ai connu cette école, parce que moi, je fais à Montpellier, je fais un bac danse en horaire aménagé.
Qui est vraiment une ville de danse, Montpellier. On rappelle, ouais, c'est un grand Montpellier danse.
En plus, j'habite tout près, en plus, tout près de ce bâtiment. En fait, j'ai fait un bac, je fais première et terminale au lycée Georges Clemenceau, en horaire aménagé avec le conservatoire de Montpellier. En fait, vu qu'on a culture chorégraphique, culture musicale, et après un autre cours qui s'appelle EDSV, économie de spectacle vivant. Et du coup, avec la prof Prunaret, Auriol Prunaret, du coup, on a des... quand on étudie, par exemple, des leçons, il y a des écoles qui sont connues et tout, des chorégraphes et tout, et après, on parle de leur parcours et tout, est-ce qu'ils ont été formés et tout. Et du coup, en ce moment-là aussi, avec cette école-là aussi, le lycée, j'ai découvert aussi le... J'ai entendu parler du CNDC. Et après, il y a... au conservatoire aussi, là où j'étais, il y avait Noé Soulier, je me souviens bien. Il y avait mon prof de danse, Jean-Pierre Alvarez, qui me disait que Noé Soulier, il a fait quelques années aussi au conservatoire de Montpellier. Et du coup, j'ai entendu parler aussi. Et après, il y a aussi ma famille d'accueil, qui est composé de Dirk et David. Et du coup, eux, ils travaillent dans le milieu du spectacle vivant. Dirk, il travaille avec des producteurs du spectacle. Et David, qui est ancien danseur, qui est toujours danseur, maintenant il enseigne le Pilates. Et qui m'a parlé aussi de cette école-là aussi, quand j'avais terminé mon bac et tout, qu'est-ce que je voulais faire aussi, où je voulais postuler et tout. Et après, on a parlé aussi du CNDC. Et le lien, ce qui se fait avec ma famille d'accueil, c'est qu'il y a Dirk. Là où il travaille, c'est à Tropisme, dans un lieu culturel et tout. Il y a Mathilde Mounier, qui est une danseuse.
J'ai mentionné son nom par rapport à... Oui,
ouais, très connue aussi, voilà, de danse contemporaine, qui connaît bien ma famille d'accueil. Et du coup, elle avait parlé aussi de ma famille d'accueil, de cette école-là aussi, du CNDC. Et du coup, après, c'est comme ça, petit à petit, j'ai des informations, je regarde des vidéos aussi sur Internet, qu'est-ce qu'ils font et tout, qu'est-ce qu'ils proposent. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai passé l'audition après mon...
Oui, parce que c'est pas pour climat qu'on vient à Angers. Hein.
Non, c'est pas...
Surtout quand on vient de Tunis ou d'Haïti, ou en France. Ouais. On ne vient pas pour le climat, on vient pour la qualité.
Exactement.
Voilà, et puis la qualité de la vie aussi. Moi, je défends ma ville. J'ai évidemment cette question rituelle avec les jeunes danseurs que j'accueille dans cette émission quand ils sont en première année. Qu'est-ce que vous attendez cette formation de 3 ans, j'espère pour vous 3 ans, vous n'avez pas craqué, c'est assez rare, ça arrive, mais qu'est-ce que vous attendez? Et j'ai tendance à dire que la formation, c'est autant désapprendre qu'apprendre. Comment vous appréhendez? Alors, vous êtes arrivé en septembre,
ouais.
Vous avez commencé en septembre, là on est en avril déjà, mais est-ce que vous aviez des attentes? Et aujourd'hui, là, comment vous voyez votre parcours de pendant ces 3 ans au sein de l'école? Alma, tu veux commencer? Ou tu veux réfléchir? Tu peux laisser parler Danilo, oui. qui parle beaucoup plus que toi.
Alma,
tu peux.
Mais c'est normal, mais c'est bien. Comme ça, on te laisse le temps de réfléchir à cette question, Alma, et on va laisser parler Danilo, qui va faire court.
Oui, j'ai fait court, ça c'est sûr. En fait, moi, j'ai attente. Moi, je peux dire, j'apprends, quoi. CND, c'est parce que t'es venu aussi pour 3 ans, c'est pour apprendre des bagages et tout. Comme ça, tu mets dans ce que t'as déjà. Et du coup, comment tu peux remplir plus, quoi, de ce que t'as déjà, quoi. En fait, déjà, on apprend beaucoup parce que c'est une école internationale où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de partout et tout. Il y a Nigeria, Tunisie, Haïti, il y a Burkina Faso. Il y a l'Allemagne aussi, il y a la Grèce aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que déjà, l'international, ça nous permet aussi de créer une communauté diverse, quoi, où on ne parle pas forcément la même langue, ou sinon, il y en a qui parlent français, ou il y en a qui parlent anglais, et il y en a qui ne parlent pas du tout anglais, ou il y en a qui ne parlent pas du tout français. Et du coup, comme ça, ça fait une petite communauté où de jour en jour, on apprend. Et ce qu'il propose aussi, le CNDC aussi, c'est des choses, que des chorégraphes que t'as entendu parler, mais tu savais pas que t'allais rencontrer. Cette école-là nous propose aussi cette opportunité de travailler avec cet intervenant. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas un prof fixe, quoi. Par exemple, quand on dit au conservatoire, on a un prof de comptant pour toute l'année. Et là, c'est différent. On a 2 semaines avec un professeur de danse et après, ça change. Et du coup, cette variété-là aussi, ça me permet aussi d'apprendre, quoi. Chaque jour, on est venu au CNDC, on apprend, il n'y a pas...
J'avais l'impression, quand j'ai interviewé mes 4 fantastiques, là, que c'était cette ligne de force du CNDC, c'était le nombre de nationalités, de pouvoir rencontrer un peu le monde, et avec cette même passion. Tu dis, on ne parle pas français, vous parlez danse, en fait.
Ah, exactement.
Vous parlez danse, ce qui est déjà énorme.
Le point commun.
Et voilà. Et cette richesse-là, en fait, d'avoir ce petit, même pour moi, hein, qui suis journaliste, ce petit monde avec 20 personnes dans ma petite ville. Et puis, cette variété de chorégraphes, c'est de regards chorégraphiques sur... Donc, tu confirmes, en fait, cette... ouais. Alma, as-tu le temps de mûrir ta réponse?
Déjà, le premier point, c'est le fait d'être avec des gens du monde entier. Ça, moi, j'apprends, en fait, parce que mes habitudes ne sont pas les habitudes de quelqu'un d'autre. Et parfois, ça... C'est bizarre pour eux, mais c'est normal pour toi. Du coup, j'apprends à comment communiquer avec chaque personne en fonction de leur région et de leur pays. Et aussi, le fait d'avoir plusieurs intervenants qui font tous de la danse contemporaine, mais de différents styles. Et du coup, ça... Tu peux apprendre vraiment beaucoup de ça. Et même les intervenants qui viennent, ils nous traitent pas vraiment comme des élèves, en fait. Ils nous traitent comme...
Comme des danseurs.
Oui, voilà.
Ouais,
oui. Et ça, j'ai trouvé génial. Et du coup, tu peux, en fait, choisir... Dans quel type de danse contemporaine tu veux aller? Voilà, c'est...
Ce qui ressortait aussi de... Vous avez tous... Toutes et toutes votre spécificité, hein, y a pas de... Mais ce qui ressortait un peu de ce que j'ai pu entendre des étudiants, c'était évidemment une école de danse, une école pour se professionnaliser, pour après avoir... être danseur, faire sa vie. Et il y avait ce côté... Hein, vous êtes 24 heures sur 24 pratiquement ensemble... une espèce de bulle comme ça, mais qui avait cette notion d'école de la vie quand même, que c'était un peu plus qu'une école de danse, et que il y avait aussi un petit apprentissage de la vie en côtoyant justement. Comment vous le voyez, ça? Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, dans le sens que déjà, comme je viens de le dire, déjà on est des gens de nationalités différentes et tout, on a nos habitudes et tout. Mais ce qui est bien, c'est comment avec tes habitudes, comment tu peux t'adapter aussi avec la communauté, tu vois. Il y en a, comme Alma il a dit, il y en a, tu peux faire ça, tu trouves que c'est normal et tout. Mais comment aussi tu mets de garder tes habitudes ou t'adapter tes habitudes en fonction aussi du groupe, qu'est-ce que, sans gérer, sans causer de problèmes aussi au, à la vie du groupe. Voilà, c'est le groupe qu'on met au centre. Où, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce groupe, dans le sens où, par exemple, il y en a qui, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a voulu partager aussi les types de danse qu'on est spécialisé, par exemple. Il y en a, la semaine dernière, on avait un cours avec, on l'appelle Jojo, mais il s'appelle Josué. Et c'était chouette de partager la danse traditionnelle de Burkina Faso. Avant notre cours avec notre professeur, voilà, qui était une ancienne danseuse de Foresight. Et du coup, on a fait un cours avec Jojo sur la danse traditionnelle Burkina. Et du coup, c'était chouette aussi de voir comment nous, les étudiants, entre nous, on met des initiatives pour qu'on puisse encore faire de souder le groupe, quoi. Quand on voit qu'il y a... Il y en a parfois, l'énergie, ça baisse. Comment nous, on peut se réunir et tout pour parler de ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et du coup, je trouve que cette vie de communauté aussi, ça change pour tout le monde, ça c'est sûr. Et comment on peut créer une nouvelle façon de vivre tout en gardant les ondes positives au niveau du
Si je pose cette question, moi j'ai fait fac de lettres, on était 200 et il n'y a pas de communauté. Voilà, y a un étudiant qui vient, qui essaie d'avoir son année et puis on se fait quelques amis. Ouais. Évidemment, la vie étudiante, mais là j'ai l'impression que c'est par la force des choses. Vous êtes 20, vous êtes 20. Vous êtes, et vous êtes constamment ensemble. Voilà. Donc ça doit créer, et en même temps avec cette richesse de nationalité et de parcours, comme vous le disiez, de culture, de... Donc vous n'êtes pas sclérosé, mais vous êtes, vous faites, ça fait sens quand même pendant 3 ans de vivre avec des gens comme ça. Voilà. C'était bon. Et on en vient à, alors ça m'a permis de, vous êtes bien sur Radio Campus Angers dans l'Artichaut, et Radio Campus Angers était en direct pendant le festival, le 4e festival Conversation organisé par le CNDC au Quai et au THV, au 400 coups. Et c'est un festival qui marche bien d'ailleurs, ça fait plus de public encore. Et Radio Campus était en direct, Étienne est témoin puisque c'est lui qui a géré le plateau. Et je recevais une étudiante et un étudiant qui, rappelez, ouais, vous allez retrouver leur prénom, je suis désolé, vous le savez vous.
C'était Mali.
Mali.
Et Igor.
Igor. Ouais, on les salue. Ouais. Et on les salue parce que c'était pareil pour eux. Je crois que c'était une première radio. Ils étaient en direct, voilà, dans la serre du quai. Et Marion Colletter trouvait assez marrant, en fait, que ce soit leur premier festival de danse. Et je leur ai posé la question, comment ils l'ont traversé. Et vous, alors? Comment vous avez traversé ce festival Conversation, là, qui vient de s'achever, là, qui s'est achevé le fin mars? Alma.
Moi, j'adore les festivals. Vraiment, j'adore les festivals et l'ambiance. C'était trop bien de voir des spectacles de danse, mais aussi de théâtre. Et aussi la diversité de ce qui était proposé pendant les spectacles. Moi, j'ai trop aimé. Et c'est le truc que j'ai aimé, la diversité des spectacles.
Danilo ?
Ouais, tout à fait d'accord avec Alma, la diversité, c'était un truc qui marchait bien. Il y a, par exemple, le lundi, tu peux voir un spectacle de danse, et le lendemain, tu vois un spectacle de musique et tout. Voilà, c'était riche, quoi. C'était pas un truc que tu vois la danse, et du coup, après, t'en as marre aussi, même si tu fais la danse aussi, t'en as marre aussi de voir la danse tout le temps, et du coup, c'était très, très varié, très riche et tout. Et du coup, j'ai même fait un petit canard de bord et tout, des spectacles que j'ai vus comme ça. Et parce qu'il y a des trucs, parfois, il y a des spectacles qui sont, que t'attendais pas du tout à ça, mais il y a, par exemple, il y a la lumière qui t'intéresse. Et du coup, moi, je coche, je dis, les lumières, ça marche très bien. Et du coup, comment je peux mettre ça après? Parce que nous, au CNDC, on fait aussi les quatre blanches entre étudiants et tout. Et du coup, ça aussi, c'était très riche aussi de voir aussi des professionnels et tout, et qui font, qui présentent leurs travaux. Et du coup, c'était très, très chouette.
On est toujours là avec nos carnets, vraiment, pour chaque spectacle.
Mais c'est parfait. Mais vous étiez très bien. Comment ça s'est passé pour vous, cette première radio, ce baptême de radiophonique.
Bah écoute, ça va, hein,
plutôt, ouais,
hein,
tranquille. Plutôt, ouais. Alors, il y a un piège. Non, il y avait, ah, un, non, y avait ah, un piège. Non, il y avait un piège dans cette émission. Pardon. Ah. C'est que à la fin de l'émission, l'invité donne son coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur, recette de cuisine, livre, musique, pièce de théâtre, opéra, jardin botanique, une fleur, je sais, ce que vous voulez. Et c'est un coup de cœur que vous allez partager avec les auditeurs et les auditrices de l'Artichaut sur Radio Campus Angers. Vous avez quelques instants parce qu'on va commencer par le précieux Étienne, qu'on remercie pour la technique encore une fois.
Et bonsoir à toutes et à tous. Oui, coup de cœur, bah, ce week-end, j'étais à la presqu'île de Crozon. Je ne connaissais pas du tout. Et qu'est-ce que c'est beau, la fin de la Terre. J'ai lu, mon père s'est fait offrir le dernier bouquin de François Cheng, qui est un poète chinois, ouais, et français, voilà, ouais. Et donc qui s'est fait prêter une maison, Cap de la Chèvre, donc qui est un des caps qu'il y a à Crozon. Et donc c'est une méditation, lui, à l'orée de bah, la fin de sa vie, hein, il est centenaire.
Et donc, il n'est pas l'académie française, François Cheng ?
Si,
je crois.
Si, hein, si, il est académicien. Et donc, oui, de très belles. J'ai pu lire, là, c'est toujours marrant de pouvoir lire in situ, plus ou moins, ouais, des livres qui sont écrits. Et puis, un autre coup de cœur, parce que c'est vraiment un bouquin qui est absolument incroyable, que j'ai en. Enfin, comme quoi, on n'arrête pas de dire là en ce moment, ah là là, la lecture dénumérisée. Mais ouais, mais la lecture dénumérisée. On va pas chez quelqu'un en lui prenant son bouquin en disant vas-y, juste l'emprunte. Ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps là chez un ami. Et donc ce livre s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. C'est une réflexion sur l'effondrement, écrit par Corinne Morel d'Arleux, que je ne connaissais pas du tout. C'est aux éditions Libertalia. C'est paru en 2020. Et je cède à la tentation de vous lire un petit résumé. En gros, dans cet essai philosophique et littéraire rédigé à la première personne, la militante éco-socialiste Corinne Morel d'Arleux questionne notre quotidien en convoquant le navigateur Bernard Moitessier, les Lucioles de Pasolini ou les Racines du ciel de Romain Gary. Elle propose un choix radical, refuser de parvenir et instaurer la dignité du présent pour endiguer le naufrage généralisé. Et c'est vraiment super bien, c'est vraiment à mettre dans toutes les mains. Vu l'état actuel du monde, il faut qu'on Étienne. Soit dans la réflexion sur l'effondrement à venir.
Rappelle le...
Corinne Morel d'Arleux, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce.
Ah ouais, le titre est très beau. Et en plus, quand on cite si Pasolini, c'est que tout va bien. Moi, rapidement, c'est un petit bouquin qui coûte 3,90€. Alors je souligne le prix parce que c'est Trac Gallimard. J'ai acheté ça il y a longtemps et je le relis en fait et je trouve ça hallucinant. Ce monsieur s'appelle Étienne Klein. Il est connu parce qu'il avait des pastilles sur France Culture. C'est un physicien qui est penseur et qui a une émission le samedi, je crois, sur France Culture encore. Voilà, il s'appelle Étienne Klein. Il avait sorti un bouquin en 2020. Une commande hein, de Gallimard sur des c'était des pensées comme ça. Ça s'appelle Le goût du vrai et il écrit pendant la première période Trump pendant le Covid et il distingue une pensée c'est abyssal entre les fake news hein. C'est fou comme 5 ans après on se recogne ce débile mental parce que des débiles mentaux ont voté pour lui, je le dis. Et il faut lire ce livre, Le goût du vrai, parce que c'est vertigineux ce qu'il peut dire sur comment ça fait écho à tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de mettre en cause les sciences et de dire que la Terre est plate. Elle est plate, évidemment. Évidemment, monsieur Trump, qu'elle est plate, la Terre. Ils ont eu le temps de choisir leur coup de cœur, nos deux invités qu'on remercie, enfin, je vais le faire après, mais... Alma et Danielo. Alma, rapidement. On est bien.
Moi.
Oui.
Moi, c'est un film qui s'appelle Contratempo. C'est un film thriller. Il y a un plot twist à la fin. Il est sorti en 2017. Et c'est l'histoire d'un crime. Je veux pas.
Non, faut
je veux pas dire le
faut
film.
Pas gâcher, voilà. Faut pas dire
oui.
Le gâcher.
Oui, voilà. Du coup, c'est une histoire et il y a un crime.
Rappelle le titre.
Contratiempo. Et merci, il s'appelle, je crois, L'accusé en français.
Là, oui. Danilo.
Coup de foudre. Mais je crois, c'est en train de venir parce que je me souviens récemment, j'ai eu ma copine au téléphone. Voilà, qui s'appelle Alizé. Et en fait, j'ai
l'air. C'était pour la scène aussi.
Ah ouais, c'était
ouais, d'accord, alors bien
ah,
joué.
Bien sûr.
Alors là, très bien joué.
Parce qu'elle m'écoute, là, elle fait la pub. Hein. Écoute. Mais du coup, je l'ai invité pour un concert d'une chanteuse qu'elle adore beaucoup, Iselt. Et du coup, qui va jouer, bien sûr. Et du coup, la réponse, quand je l'ai eu au téléphone, et du coup, c'était très chouette de voir comment elle était contente aussi de cette annonce-là. Et voilà, c'était juste cette coup de foudre-là que j'avais eu.
Et comment elle s'appelle la copine pour la saluer encore? Parce que c'était un peu
Alizé Taster.
Bien sûr. Bon, on la salue, on l'embrasse. Hein.
On l'embrasse.
Fin de l'Artichaut, saison 12, épisode 174. Un grand merci à Alma et Danilo. Merci beaucoup d'être venus pour votre baptême de la radio. Un grand merci à vous, précieux Étienne. La rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le 103 FM. Le podcast arrive très vite. Et je fais très vite pour mes traditionnelles citations. Le tango a dû être inventé par un indécis. C'est magnifique comme phrase à Félix Leclerc. La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Claude Nougaro. La danse est une poésie muette. Simonide de Séos. Allez chercher, c'est un poète grec ancien. Les danses s'établissent sur la poussière des morts et les tombeaux poussent sous les pas de la joie. Chateaubriand. Et la petite dernière. Ce grand muet de temps nous vieillit en silence. Et des jours débridés précipitent la danse. Ovide.